Voilà, je donne la parole à M. Texier, qui est le patron d'Atrium, d'une ville d'une autre taille que Charleroi, je m'excuse, mais donc ma ville Bruxelles, 1 200 000 habitants, et qui est en charge des développements, disons, des centres commerciaux, de la localisation commerciale. À vous la parole.
Merci. Des quartiers commerçants, je vais dire, plus que centres commerciaux, parce qu'on ne s'occupe pas des shopping centers. Et donc, moi, le défi qui m'a été demandé par M. Corain, c'est de parler de comment on priorise notre action à Bruxelles, sachant qu'effectivement, Bruxelles, c'est, on va dire, entre 10 et 15 pôles commerciaux vraiment importants, mais c'est en tout, si on s'en réfère aux références urbanistiques, 104 noyaux commerciaux. Et donc, ce qui est important, j'utilise une présentation que j'utilise assez fréquemment et que j'utilise notamment auprès de nos mandants, donc le gouvernement régional bruxellois et plus précisément le ministre de l'économie. Je lui parle de ceci et je vous pose la question aussi. Est-ce que vous connaissez un territoire qui fait 22 km², qui est donc 8 fois plus petit que Bruxelles, qui connaît 15 millions de visiteurs par an, c'est 5 fois plus qu'à Bruxelles. Ce territoire, il a un patrimoine architectural et culturel plutôt pauvre. Son offre commerciale est très pauvre. Les prix qui y sont pratiqués sont excessifs. Et en plus, il est réputé, ce territoire, pour avoir prodigué de mauvaises conditions de travail. Et en plus, il faut payer 46 euros pour y entrer. Et c'est la première destination touristique européenne. Je ne sais pas si vous avez deviné de qui on parle, mais on parle de ceci. On parle en fait de Euro Disney. Alors, pourquoi je montre ça aux ministres ou aux échevins ou aux bourgmestres? C'est parce que la grosse difficulté à Bruxelles, c'est que tous les bourgmestres, qu'on soit à Ganshoren, à Bruxelles-Ville évidemment, à Uccle ou à Schaerbeek, pas tous, j'exagère, mais beaucoup, ils ont l'impression qu'il faut développer une stratégie de développement commercial gigantesque, pharaonique. Il faut attirer des shopping centers. Dans ma rue, même si j'ai 3000 passants par jour, je veux un Zara, je veux un H&M. Et donc, ce que nous, on essaye de leur faire comprendre, c'est qu'en fait, leur ville, leur commune, c'est une marque. Alors, ne voyez pas en moi un affreux publicitaire ou quoi que ce soit. C'est une marque. Et qu'en fait, les quartiers commerçants sont des promesses. On s'éloigne un peu de ce qu'on a dit précédemment. Quand je dis ça, je ne suis pas non plus un doudin romantique. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et je parle bien de la manière dont Atrium pose les jalons pour développer sa stratégie, puisqu'on ne peut pas agir partout. D'ailleurs, on n'a pas les fonds pour pouvoir le faire. Donc, une promesse, on peut en discuter, une marque, une promesse, une marque, une promesse. Donc, une marque, c'est une promesse, mais c'est aussi un univers culturel et des phénomènes culturels. Je vais après décliner un peu les aspects opérationnels que ça peut prendre chez nous, mais les phénomènes culturels, les phénomènes culturels, je vous expliquerai tout à l'heure comment on traduit ça dans une action alors qu'on parle de commerce. Donc on parle en fait de marketing territorial. Le marketing, c'est parfois un mot très peu apprécié dans le milieu de l'aménagement du territoire, mais c'est de moins en moins le cas, donc tant mieux. Et donc l'objectif, c'est comment promouvoir un territoire. Parce que vous vivez ça au quotidien. Ce qui est important, si on veut favoriser l'éclosion du commerce, le développement du commerce, il faut qu'on attire des investisseurs. Et quand je parle d'investisseurs, je ne parle pas d'un gros fonds de pension. Là, je parle de vraiment quelqu'un, en fait, un entrepreneur. C'est des entrepreneurs. Et un entrepreneur, la première chose qu'il va regarder, c'est est-ce que ça rentre dans mon tiroir caisse. Promouvoir un territoire, comment on fait? Et ça, c'est important. On en a parlé très brièvement tout à l'heure. Il faut étudier son identité. Alors oui, on rentre dans les travers que Jean-Luc a évoqués tout à l'heure. C'est vrai qu'en tant que pouvoir public, on étudie beaucoup. Mais étudier l'identité d'un quartier, ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Alors, ça l'est peut-être devenu par après. Mais c'est vrai qu'on a commencé à faire ça à Bruxelles à peu près dès 2007. Il faut aussi le délimiter de manière pertinente. Je vais vous donner un exemple. Il y a des échevins qui me tannent quasiment tous les jours en me disant « Mais telle rue, pourquoi j'ai un taux de vacances qui est si élevé? On est en quartier commerçant, il faut absolument réinjecter du commerce ici. » Mais en fait, la réalité géographique, sociologique et les usages ont tellement changé que j'ai presque envie de lui dire, je ne lui dis pas pour pas qu'il fasse un arrêt cardiaque, que ce quartier il est mort et qu'en fait, il y a eu un déplacement de l'activité commerciale sur son territoire et qu'il faut acter des stratégies sur cette autre partie et requalifier cette partie-là. Et puis, il faut réfléchir aussi à qu'est-ce qui va attirer les gens sur le territoire. Je parle de gens, et puis après, on parlera d'usagers, parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Et puis, je reviens à favoriser les phénomènes culturels. À Bruxelles, on a plein d'inspirations pour favoriser les phénomènes culturels. Donc, on commence à travailler sur ce marketing urbain, regarder comment sont découpés les quartiers. Et donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quand on travaille sur l'identité et quand on travaille sur les usages et les usagers, ça nous permet un peu de retomber sur terre et de dire aux pouvoirs locaux, allez, tout le monde n'aura pas une rue neuve dans sa commune, ça n'a pas de sens et ça n'est pas ce que veulent les gens. On parlait tout à l'heure des centres commerciaux gigantesques. Est-ce que c'est vraiment ce que veulent les gens ? Donc après, pour prioriser son action, il faut aussi, et ça fait partie du travail que Atrium mène auprès de nos différents bénéficiaires et auprès de nos mandants, c'est des paradigmes qui peuvent peut-être choquer, je ne sais pas, mais le paradigme devient un service à la population. Pendant très longtemps, dans les politiques publiques et dans les politiques d'aménagement du territoire ou les politiques urbaines, le commerce était considéré à part. D'ailleurs, les commerces, c'est les indépendants. Vous regardez dans les communes, on parle quoi, des classes moyennes, des affaires économiques. C'est jamais très très bien clair. Alors que le commerce devient un service à la population, on va voir dans quel degré le commerce est un facteur urbain qui est, je dirais, pour lequel la population et les habitants sont de plus en plus attentifs. Le commerce est un facteur clé de la vie de quartier. Il incarne les valeurs d'un territoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important de comprendre l'identité et les valeurs d'un quartier, puisque moi je considère qu'Atrium remplit sa mission quand on ouvre un commerce qui répond aux attentes des usagers. Donc il faut bien connaître ceci. Et enfin, le commerce, c'est peut-être un des moyens qui va permettre de réconcilier l'homme et la ville. Alors, quelque chose qui est vraiment important, parce qu'on n'en parle jamais ou pas assez, c'est qu'il faut entendre l'usager et il faut répondre à ses attentes. L'usager, c'est un mot pour dire quoi ? Pour dire les clients, pour les gens qui vont dans les quartiers commerçants. Alors, quelques exemples de ce que l'on fait chez Atrium quand on ouvre des commerces. On a ouvert Chipote et Papote à Mérode, qui est un atelier de couture, par exemple. On a refait la devanture et l'aménagement de chez Zora, qui est une épicerie rue Franzmann. C'est dans le quartier Boxtal, Laeken, le nord de Bruxelles. Et puis, on a ouvert aussi l'Estaminet. C'est un petit restaurant à Scarbeck, près de l'église Sainte-Marie. Quartier plutôt populaire et assez communautaire, je dirais. Et pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, Atrium réalise, tous les deux ans, on publie un baromètre, un baromètre qui permet d'avoir une vue sur le profil et les attentes et les recommandations du chaland bruxellois. Donc c'est une photographie. Et alors à chaque fois, il y a des données quantitatives, les flux piétons, le mix commercial, mais il y a aussi des données qualitatives, puisque une fois que l'on a, sur base justement des chiffres quantitatifs, on a établi quel était le profil type des clients de ce quartier, on les réunit et on mène un travail un peu sociologique pour un peu savoir quelles sont leurs attentes et la perception qu'ils ont des quartiers commerçants. Et donc si on a ouvert Chipote et Papote à Mérode, c'est parce que les chalands disaient qu'il faut un nouveau commerce qui doit être spécialisé, qui doit donner de l'importance à l'accueil et aux services. Donc on revient à certaines remarques qui ont été formulées tout à l'heure. Et pour ce qui est de Scarbeck ou de Laeken, on voulait atteindre le niveau dit de l'épanouissement de soi. Et donc, il fallait stimuler la création de véritables restaurants à côté des snacks. Parce qu'effectivement, dans le quartier Sainte-Marie, il y a énormément de snacks. Et pourtant, il y avait toute une population du coup, qui, quand elle sortait des bureaux, ne savait pas où aller manger. Et puis aussi, autre phénomène, c'est que, heureusement, on n'est pas dans le mythe de la gentrification, mais il y a quand même aussi des personnes, des familles qui vivent dans ce quartier-là et qui ne trouvaient pas, qui n'avaient pas envie de manger au snack toutes les semaines, par exemple. Donc, entendre l'usager, c'est très important. Donc, je reviens dans ce que je vous ai dit. Un, il faut travailler sur l'identité pour essayer un petit peu mieux de cerner quel est le potentiel, quelle est la promesse qui peut être formulée par le quartier commerçant. Deux, il faut entendre l'usager, c'est vraiment important. Après, il y a des turbulences qui nous empêchent de faire notre travail au quotidien correctement. La première, c'est, j'appellerais, la turbulence de la promotion immobilière. Je crois que Jean-Luc en a bien parlé, mais c'est vrai qu'à Bruxelles, par exemple, il y a des mètres carrés de bureaux qui ont été créés un peu partout. Et alors, ce qui est horrible et insupportable, c'est qu'assez fréquemment, il n'y a rien, il n'y a pas de bureau, et puis on se dit, tiens, de toute façon, ici, on mettra du commerce. Sauf que la manière dont c'est construit, il n'y a jamais la possibilité de mettre du commerce, et par ailleurs, on ne se pose jamais la question de savoir si ça a un intérêt de créer du commerce dans cette promotion. Deux, le fait aussi que l'espace public est très généralement pas du tout fait pour l'usager. Aujourd'hui, il y a certaines chaînes qui recrutent des sociologues, ils les mettent dans leur boutique et ils regardent un petit peu comment évolue le client pour réaménager l'espace de vente. Et il faut qu'on fasse ça en dehors du commerce. On doit faire ça dans l'espace public. Et franchement, alors je ne suis pas un pro piétonnier ou quoi que ce soit, peu importe, le débat n'est pas là, mais dans la majeure partie des villes, il y a près de 85% de l'aménagement de l'espace public qui est destiné aux voitures. Et les piétons sont abandonnés. Regardez, quand on fait un chantier, on va évidemment, et on a raison de le faire, mettre sur pied, des déviations pour les voitures. Vous arrivez, vous, à pied, vous ne savez pas comment passer. Dans un quartier commerçant, c'est dramatique, ce genre de choses. Donc, c'est la deuxième turbulence, l'aménagement du territoire. Il y a aussi cette espèce de problème qu'on a entre centralité et périphérie. Hein, à Bruxelles, on a dans la base de données d'Atrium, il y a plus de 20 000 entrées considérées comme surface commerciale. Il y a un taux de vacance moyen qui est à peu près de 12%, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on crée des shopping centers. Alors, d'un côté, on a le politique qui nous dit « Allez, Atrium, il faut ouvrir du commerce en centre-ville. » Et puis, à côté de ça, il laisse ouvrir des bazars pareils. C'est un peu schizophrénique. Il y a le fait aussi, et ça, c'est assez difficile à Bruxelles, c'est que, je reviens sur l'usager, l'usager est de plus en plus attentif à l'aménagement de l'espace de vente. Il est presque plus attentif à l'histoire du produit que le produit lui-même. Et je reviens à ce qui a été dit par l'un d'entre vous tout à l'heure. Il a vraiment envie d'avoir en face de lui un professionnel de la vente ou un professionnel du produit. À Bruxelles, et c'est probablement le cas ici aussi à Charleroi dans des axes historiques, la manière, je dirais, le parcellaire des bâtiments est très étroit, avec des petites surfaces commerciales, alors qu'on veut de plus en plus d'espace, donc ça devient très difficile. C'est une turbulence, la réalité architecturale. Si on peut remembrer, parfois, il faut remembrer. Puis enfin, je mets ceci, pourquoi ? C'est que le politique... Alors, il y a eu au début des années 90, je crois, un mot qui est venu très souvent dans la bouche des politiques et dans toute l'Europe, hein, c'est le participatif, la participation. La participation, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on parle de considération. La considération, c'est très important. Et ça veut dire qu'il faut faire la ville avec les usagers. McBrussels, c'est quoi ? C'est un projet qu'Atrium a mené suite au lockdown qu'il y a eu après l'attentat de Paris, où Bruxelles s'est retrouvée ville morte, mais vraiment ville morte. Quand vous voyez à Paris, après les attentats, la ville est restée debout. Bruxelles, c'était une ville morte. Les commerçants, ils avaient intérêt à fermer. On dit, des fois, ils étaient obligés de fermer, mais ils avaient intérêt à fermer parce qu'il n'y avait plus personne. Et en termes d'image, moi qui ne suis pas belge, je constate que le Brussels bashing, c'est un peu un sport national en Belgique. Et du coup, alors qu'on travaille à essayer de, je dirais, redorer le blason de Bruxelles, une décision politique telle que celle-ci a fait énormément de mal à Bruxelles. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, il faut réenchanter les quartiers commerçants. Pourquoi ? Parce que donc, l'image de Bruxelles par les Bruxellois était très, très mauvaise. Et par ailleurs, sans doute que vous êtes au courant, il y a une espèce de saga autour de la mise en piétonnier des grands boulevards du centre qui fait que les Bruxellois ne veulent plus aller dans le centre. Du moins, c'est comme ça que c'est perçu. Là, on a mené ceci. On a invité, pour aller très vite, on a invité les citoyens, les usagers, à proposer des idées de projets dans les 10 quartiers principaux du centre-ville de Bruxelles pour réenchanter les quartiers commerçants. Et on a eu 372 idées de projets. Alors, je ne dirais pas que ce projet-là est la panacée, puisque s'il a satisfait les citoyens, il n'a pas nécessairement donné satisfaction aux commerçants, mais on y reviendra tout à l'heure pourquoi. Donc, je dirais, le point 2, c'est vraiment s'intéresser à répondre aux usagers malgré ces turbulences. Et donc la ville, comme ça, elle devient plus inclusive, elle devient plus excitante. Inclure, c'est quoi ? Ici, c'est dans le quartier Van der Kindere, donc un quartier du nord d'Uccle, donc du nord du sud de Bruxelles, où il y a, il y a beaucoup de trams qui passent, et il a fallu, la STIB a dû faire des travaux très importants. S'il y a des commerçants ici, j'imagine qu'il y en a qui ont déjà des sueurs froides parce qu'ils ont entendu le mot chantier. Chantier et commerce, c'est horrible. On ne s'en sort jamais. Et alors, il y a des sagas à Bruxelles de chantiers, comme la place Flagey, qui sont vraiment traumatisantes. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'à l'occasion du chantier, mettre sur pied une hyper-communication de l'animation pour veiller à ce que les usagers habituels de ce quartier-là soient rassurés continuer à rester, rassurer aussi les commerçants, parce que les commerçants sont les premiers ambassadeurs d'un chantier, entre guillemets. Si le commerçant, dès le départ, alors que le client rentre, le commerçant dit « ce chantier, j'en ai marre, oh, ne venez pas, moi je vais mettre la clé sous la porte », la prochaine fois, le client ne viendra pas. Si il dit « écoutez, on a tout prévu, vous pouvez passer par ici, vous pouvez faire cela, s'il y a des actions promotionnelles en même temps », c'est déjà mieux. Autre exemple intéressant, c'est les terrasses du Vismet. Là aussi, c'était pourquoi je parle d'inclusif, c'est que là, ce sont carrément les commerçants qui sont venus vers nous en nous disant, voilà, nous, nos terrasses, on n'en est pas satisfaits. Est-ce que vous seriez susceptible de financer nos nouvelles terrasses? Et nous, on leur a dit, on peut réfléchir à un financement pour autant que chacun ne vienne pas avec des terrasses complètement différentes, avec un parasol Ricard, un parasol je ne sais pas quoi et un truc complètement horrible. On leur a dit, regardez cette place. Cette place, c'est une des rares places à Bruxelles où il y a un peu, je dirais, d'air, un peu de perspective. Travaillons sur la transparence. Et d'ailleurs, peut-être que vous ne le voyez pas, mais en fait, on a travaillé sur du plexiglas pour qu'on puisse garder cette perspective-là et travailler ensemble pour faire en sorte que les commerçants aient quelque chose qui soit, je dirais, plus esthétique. Donc, travailler avec les commerçants, travailler avec les citoyens. Alors, enfin, pour terminer, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose, il y a des paradigmes, en fait, aussi, qui sont extrêmement importants quand on veut faire du travail de développement commercial. Le premier, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne qu'on est rentré quand même dans une logique de ville post-pétrole. Donc le tout à la bagnole, les viaducs qui rentrent dans les villes, il faut vraiment, en fait, et je reparlais d'espace public tout à l'heure, je ne dis pas que les voitures ne doivent pas arriver, au contraire, elles doivent venir. Il y a des quartiers où on vient quasiment qu'en voiture, mais quoique. Mais ce qui est vraiment important, par contre, c'est qu'une fois que l'acheteur, lui, il est à pied, son expérience à pied, elle doit être agréable. Et franchement, à Bruxelles, c'est rarement le cas. Alors, aussi, dans la logique des politiques de vouloir attirer des habitants, en fait, ils devraient d'abord regarder qui sont les habitants de leur quartier et aussi se rendre compte, hein, on parle de Smart Cities, et là, c'est une pub d'IBM, Smart Ideas for Smart Cities. Et en fait, la ville regorge de smart people. Il y a plein de gens qui ont des idées, il y a plein de citoyens qui ont des idées, pas des doux rêveurs, hein, des idées très concrètes. Mener des projets, je crois que c'était aussi en partie une des volontés originelle de ce qu'on appelle les contrats de quartier à Bruxelles, où on essayait à un échelon de proximité plus important de mener des projets pouvoirs locaux avec les citoyens. Ça n'a pas toujours bien marché, mais c'est vraiment important de se dire qu'il y a dans nos villes des gens qui ont des excellentes idées. Il faut travailler avec ces gens-là. Il faut considérer, je vous l'ai dit, j'ai repris l'image de Meg Brussels, mais on a été par l'exemple très positivement surpris de ce que, quand on sollicite les citoyens pour trouver des solutions, il y a vraiment des gens qui sont prêts à retrousser leurs manches et pour le bénéfice de tous. Et puis, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est drôle, il faut vraiment penser là, ce qu'on appelle downtown experience. C'est vraiment, alors on en parle depuis longtemps, de l'expérience centre-ville, mais il faut vraiment que lorsque le client arpente les rues d'un quartier commerçant, il soit marqué par le plaisir ou par la surprise. Ici, c'est les toilettes de Bryant Park, donc à New York, où, regardez la question qu'ils se sont posées au départ. Hein. La question qu'ils se sont posées au départ, c'est: nous voulions dire aux femmes qu'elles aient à avoir une expérience merveilleuse. On parle de toilettes. Donc, vous voyez, il y a un bouquet, ça sent bon, c'est propre. Tout ça pour dire quoi? C'est que dans nos quartiers, alors on ne va pas aller jusque-là, mais dans nos quartiers, veillons, mais mettons-nous dans la peau des usagers, et c'est ce qu'on fait chez Atrium, pour faire en sorte que l'aménagement de l'espace public, les devantures commerciales, les commerçants qui sont à l'intérieur, et tous cette préoccupation qui est de donner satisfaction au client, ce que c'est un commerçant, hein, le client est roi, ça reste un adage qui fonctionne. Voilà, merci.
On a le temps pour des questions, et puis on va... Oui ? Est-ce qu'il y a le... Attends, il y a le micro qui arrive, comme ça.
Vous l'avez un peu évoqué à travers la création de Chipote et Papote. Est-ce qu'il y a des logiques de constitution de filières? Et donc de se dire, tiens, dans tel quartier, il manque tel type de commerce. Allons attirer de manière spécifique tel commerce et à la rigueur, allons faire une chasse pour identifier le bon commerce qui devrait venir s'installer pour compléter une filière de magasins. Et alors, question qui est en lien avec ça, est-ce qu'il y a aussi des logiques de spécialisation. Est-ce que vous connaissez des endroits où on a fait des logiques de spécialisation? On parlait de magasins de GSM, mais on peut imaginer de regrouper des magasins de GSM, des magasins de réparation, des batteries, et de commencer à constituer des quartiers avec une couleur très connotée, ce qui permet de nouveau, après, d'y attirer de nouveaux commerces spécialisés.
Il faudrait peut-être expliquer aussi un peu le fonctionnement d'Atrium.
Ça, je ne l'ai pas fait, effectivement. Non, oui. Mais je commence par... Je vais d'abord répondre à la question avant que la réponse ne m'échappe. Alors, nous, on est face à un problème de riche chez Atrium, en ce sens qu'on est énormément sollicité par des gens qui veulent ouvrir des commerces, et donc on est plus dans une logique de matching. Alors, j'exagère, hein, ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'une partie de notre travail, donc pour parler d'Atrium, c'est sur base de nos chiffres et surtout de notre connaissance des territoires, parce que l'importance du chiffre, c'est bien de venir avec une étude de marché chiffrée, mais après, il faut la confronter à la réalité d'un quartier commerçant. Quand on reçoit des candidats commerçants, ils ont souvent une idée très préconçue de là où ils veulent aller, mais finalement, quand on étudie et qu'on leur demande de mieux réfléchir à qui sont leurs clients, on leur dit, en fait, vous vouliez aller ici, mais vos clients sont plutôt là. On n'a pas, je dirais, on n'est pas dans une démarche proactive qui consiste à dire on va aller chercher des nouveaux chocolatiers, on va aller chercher des spécialistes de la bière artisanale. Il y a des filières effectivement qui se dessinent, les deux que je viens de citer, mais par contre on a ce luxe-là de ne pas devoir aller les chercher. Ça a un revers, c'est que très clairement il y a une partie de l'entrepreneuriat plus social qui nous échappe. Donc ça c'est un objectif aussi qu'il faut qu'on garde en tête, c'est celui-ci. Et alors, la deuxième partie de votre question, elle est délicate, en ce sens que, en termes de maîtrise foncière, on n'a pas de levier, donc je vais peut-être enchaîner sur Atrium juste derrière, et par ailleurs, il y a des règles légales qui font qu'il est difficile de zoner ou de mettre des quotas sur les territoires. Donc Atrium, très brièvement, c'est 3 missions, donc c'est 110 personnes. C'est 3 missions, des Think Open Boost. Une première mission qui est, comme Jean-Luc le rappelait, des études et des analyses, mais qui constituent effectivement la base, en plus de notre connaissance réelle du terrain, pour pouvoir développer une stratégie, renseigner les pouvoirs publics, influencer les pouvoirs publics, ou parfois même leur mettre le couteau sous la gorge quand on y parvient. 2, c'est open, c'est vraiment l'ouverture du commerce. Donc Atrium, en 2016, ça a été 79 ouvertures de commerce. Donc c'est un commerce et demi par semaine. On est très fiers de ça. L'objectif, c'est, pour rebondir sur ce qu'on disait par rapport au risque bancaire, ben c'est aussi notamment d'accompagner au mieux pour éviter une exposition trop lourde à des risques. Surtout qu'on accompagne parfois des concepts particulièrement audacieux qui ne rassurent certainement pas les banques, même si on vient avec la garantie, entre guillemets, de ce qu'il y a un public pour ce commerce-ci. Donc des ouvertures de commerce. Et puis 3, boost, on appelle ça. Et donc là, c'est la dynamisation des quartiers commerçants. Et donc ça va être de travailler sur les accompagnements de chantier, sur la rénovation des devantures, sur le réaménagement de l'espace public, où là, on a cette chance-là maintenant, depuis que Pascal Smet est revenu aux affaires, il nous associe beaucoup plus dans les quartiers commerçants, parce que lui a compris qu'on n'aménage pas un quartier commerçant comme on aménage un quartier résidentiel ou administratif. Et donc ça change pas mal de choses. Ce sont nos 3 métiers, et donc on a des gens qui sont autant des chefs de projet que des géographes, des sociologues, et puis après on a des gens qui sont vraiment des spécialistes de l'ouverture du commerce en ville. Ils font ce métier-là depuis plusieurs années, et donc c'est la manière dont on est organisé. Et donc c'est un budget de 8 millions d'euros par an, budget régional et en partie aussi européen.
Est-ce que je peux enchaîner une question? Comment vous travaillez ensemble avec d'autres instances régionales? Parce que vous nous indiquez dans votre présentation, disons, une activité après les attentats.
Oui.
Mais Visit Brussels a aussi fait sa campagne propre. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'horizontalité pour intégrer ces activités?
Mais non. Ça a été le cas, oui. Maintenant, non, Visite, l'objectif de Visite Brussels, c'était vraiment de faire une campagne vers l'extérieur, hors Belgique, à l'international. Nous, pas. Nous, qu'est-ce qu'on constate, et c'est affligeant, c'est que les Bruxellois, même, ne viennent plus dans le centre. Alors que c'est quand même le poumon commercial de Bruxelles, avec le haut de la ville, on va dire. Et donc, c'est ce désamour. Nous, on a misé que sur une frange de la population qui sont les Bruxellois. On a pu constater... chiffres à la clé qu'après le lockdown, les restaurants uclois ne se sont jamais aussi bien portés. Donc il y a eu un report. Et le problème en commerce, c'est que quand on change un usage, pour revenir à la situation d'avant, c'est très, très difficile. Et donc, on est presque dans une logique de réorientation des commerces du centre parce qu'il y a une frange de leur clientèle que je crains qu'ils ne retrouveront jamais. Le Brabant flamand nord ne revient plus dans le centre, à Dansaert, c'est une catastrophe. Et donc, pardon, la transversalité, ça a été très difficile. Nous, je dirais qu'Atrium est dans une logique de soft power depuis 4 ans. J'ai bien compris que ce n'est pas en allant taper sur la table d'un directeur général d'une administration qu'on allait m'entendre. Donc, on a essayé de faire passer des messages un peu comme ceux que je viens de faire passer, de manière plus soft power, plus peut-être parfois insidieuse, pour que ça rentre dans la tête des administrations et qu'elles-mêmes viennent vers nous. Parce que sinon, franchement, on n'était pas, venant vraiment du terrain, on n'était pas entendu comme il le fallait.
Mais donc, avec l'expérience d'une grande ville, quand même, vous, hein, pour aviser les Carolo, est-ce que c'est un Atrium qui est l'instrument bien fait ou est-ce que par rapport à la planification, enfin, je remarque par exemple que la planification Atrium ne se retrouve pas dans le projet PRDD, ça n'avait rien à voir.
Alors, parce qu'on a été sollicité à un moment où Atrium n'existait pas vraiment. Je vous dis, au sein de la région, Atrium n'existe que depuis 2-3 ans. Donc, on est beaucoup plus sollicité maintenant. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut pour Charleroi ? Atrium, c'est pas du tout éloigné de ce que Jean-Luc a présenté tout à l'heure au niveau des Town City Management. Si ce n'est qu'on a changé de hauteur, enfin, il n'y a rien de hiérarchique là-dedans, mais on est au niveau territoire de la région. C'est une question qu'il faut se poser assez fréquemment. C'est une question qui se pose toujours en marketing territorial. C'est quel est le prisme de lecture qu'il faut avoir sur le territoire. Est-ce qu'on doit regarder à l'échelle des quartiers, à l'échelle de la commune, de l'intercommunalité, de la région, enfin, peu importe. Tout dépend, en fait, de la problématique qu'on traite. Il y a des problématiques qui se traitent à l'échelle d'un quartier. Nous, on essaye d'avoir cette vue régionale, puisque c'est la mission qui nous est donnée.
Donc, ce qui, pour Charleroi, serait vue métropolitaine ou pas ? Est-ce qu'il faut peut-être réfléchir au-delà de la ville ? Autre, peut-être dernière question avant l'apéro, et puis, oui, monsieur.
Oui, vous n'avez pas parlé ni l'un ni l'autre du fait qu'au-dessus de certains commerces, on pourrait avoir du logement, et de savoir si c'est intéressant pour des zones ou des rues qui sont un peu plus en difficulté aujourd'hui, qui sont moins fréquentées. Parce que j'ai été surpris par ce que vous disiez tout à l'heure, en disant on n'emménage pas un quartier commercial comme un quartier résidentiel. Si on veut mélanger les deux, il faut trouver un aménagement un peu particulier. Et les données que Jean-Luc Callonger donnait tout à l'heure sur la diminution du nombre de piétons dans les zones commerciales, ça veut dire qu'il y a aussi de la vie urbaine qui s'en va un peu. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de combiner les deux pour ramener aussi de la vie dans la zone urbaine ?
C'est vrai que c'est un fantasme qu'on a tous. On travaille là-dessus avec les spécialistes de l'urbanisme et du logement. La difficulté est souvent liée, en tout cas à Bruxelles, en ce sens que, pour prendre un raccourci, avant les commerçants habitaient au-dessus de leur commerce, et puis un jour ils en ont eu marre d'habiter en ville, ils ont gagné un peu mieux leur vie, ils ont investi soit en périphérie, soit dans la troisième couronne de Bruxelles, et puis ils se sont dit, tiens, finalement j'ai plus besoin de rien aux étages, je condamne l'entrée privative, j'agrandis ma vitrine, et aujourd'hui on se retrouve beaucoup à Bruxelles avec des rues où il y a un ré commercial, il n'y a plus d'entrée privative, et si on veut louer au-dessus, il faut passer par le magasin. Pour du résidentiel, c'est un petit peu embêtant. J'exagère, il n'y a pas que ça. Après, pour avoir réfléchi à la question avec d'autres administrations bruxelloises, quand on simule le coût que ça génère pour pouvoir y parvenir, c'est très vite très coûteux. Je ne dis pas que c'est impossible. Par contre, ça devient intéressant si on arrive à porter cette réflexion-là sur des gros blocs. Donc si on a 5, 6 bâtiments qui sont contigus, qui sont dans cette définition-là, eh ben, on peut créer un accès pour tout le bâtiment, et là, ça devient intéressant. Mais franchement, depuis 2007, j'entends parler de ça à Bruxelles, avec des colloques sur les étages vides au-dessus des commerces. Et quand il s'agit de passer à l'action, il faut débourser, et donc ça devient un peu plus délicat. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas y réfléchir et agir.
Pour des raisons de logement et de sécurité, d'ailleurs, aussi, de contrôle social, D'accord. Bon, ah oui, monsieur encore. Alors, est-ce que...
Moi, j'ai un constat qui entraîne une question. Quand il y a du développement commercial, type comme on a pour l'instant à Charleroi, ça entraîne une spéculation immobilière. Quelque part, ça peut être bienvenu, mais l'inconvénient de la spéculation immobilière, c'est quelque part, elle ralentit le développement de la ville, l'économie de la ville. Comment pourrait-on faire pour que cette spéculation immobilière ne soit pas aussi longue ?
Je vois deux réponses. La première, qui fait un peu peur parfois, parce qu'on a l'impression de rentrer dans des logiques staliniennes de régulation où on fait de l'acquisition. Ça existe. On travaille avec des régies foncières à Saint-Gilles, à Jette, et c'est vraiment intéressant. Alors pourquoi ça fait peur ? Parce qu'effectivement, est-ce que c'est le rôle du public que d'investir dans la brique pour tenter de diminuer une potentielle, diminuer une potentielle augmentation du prix du foncier, et deux, avoir un impact sur le mix commercial ? Bon, on sait que la vie des centres-villes devient... Enfin, la France demande que ce soit classé raison impérieuse à l'Europe, mais je peux comprendre qu'on arrive dans des logiques d'investissement foncier pour y parvenir. Après, ce que l'on développe, c'est d'avoir, je dirais, un impact sur la maîtrise foncière, et notamment à Bruxelles, auprès des petits et moyens propriétaires, qui n'intéressent pas nécessairement les gros courtiers, qui ont une logique de leur foncier plutôt passive, un peu à la papa, comme on dit. Donc, ils ont toujours loué les étages et ils ne se sont pas toujours intéressés aux rez. Et souvent, quand ils se sont intéressés aux rez, ils ont une déconvenue avec un commerçant. Et donc, chat et chaté qu'on craint l'eau froide, il arrête tout et il met un rideau et un cactus. Donc, un des rôles, je dirais, des structures telles qu'Atrium, c'est de rentrer en contact le plus possible avec ces propriétaires moyens et petits pour venir leur proposer des commerçants. Et donc, on leur propose des commerçants avec, je dirais, patte blanche, en ce sens qu'ils ont des plans financiers solides, qu'ils ont du soutien, qu'ils ont une étude de marché correcte. Après, il y a la difficulté que Jean-Luc évoquait tout à l'heure, qui est la durée des baux commerciaux. Et très clairement, il y a quelque chose à faire. On a réussi à négocier des choses qui sont à la limite de la légalité, parfois à Bruxelles, nous-mêmes, où on inscrit des clauses libératoires sans pénalité. Et il faut convaincre les propriétaires de le faire. Mais franchement, on a réussi à revitaliser certains axes comme ça, rien qu'en travaillant avec les propriétaires. La difficulté qu'on a à Bruxelles, et c'est sans doute le cas ici aussi, c'est que parfois les propriétaires, ils sont aux quatre coins du monde et on ne sait pas les toucher. C'est des sociétés immobilières qui existent, qui n'existent pas.
En plus, la question qui se pose, je trouve, au niveau de la planification urbaine, c'est est-ce que cette transition va se faire en continuité ou en rupture ? Ce qu'on voit, par exemple, dans des villes comme Berlin ou autres, où l'immobilier est encore disponible, que de toutes nouvelles formes, disons, de production, de distribution, de vente, etc., avec ces pop-up organisés, et que disons, notre vision classique avec le magasin, avec le commerçant, dans une rue commerçante, ou dans un... Tout cela change aussi au niveau de ce qu'on a dit, de l'éphémère, la temporalité, et donc des infrastructures, disons, commerçantes, changent aussi de modèle, où il y a plus le supermarché, hein, donc l'innovation elle-même a changé avec, disons, des sous-traitants qui sont dans un marché plutôt. Et donc, je pense que ce modèle-là doit être réfléchi aussi, l'idée de, disons, d'un centre commercial qui est une activité plutôt qu'un conglomérat de vendeurs, en fait. Et je pense que là, il y a un travail d'innovation à faire aussi, surtout que quand on doit recommencer les affaires. Bon, je propose, vu le temps, d'arrêter ici cette première partie de notre matinée en remerciant les deux orateurs. En vous donnant 10 minutes pour prendre l'apéritif que vous pouvez amener à table, et puis on aura la réponse à toutes nos questions par le professeur Benjamin Wayens après. Voilà, une petite pause.